France Inter.
Bonjour, c'est Julia Foyce. MeToo a fêté ses 7 ans en plein procès Mazan et on se dit que rien n'arrête la vague, mais que tout va quand même très très lentement. D'où l'envie de cette série qui réunirait les paroles de toutes celles qui, dans le studio d'En Marge, anciennement unique en son genre, sont venues témoigner, mais témoigner pour que ça bouge, que ça avance, pour que la honte change de camp. C'est le titre de notre série, épisode 2, aujourd'hui, avec Jeanne Brooke. Elle a porté plainte en Australie et ça fait toute la différence. Elle dit « La vie, c'est pas une autoroute. Faut dire, la sienne a eu de sacrés virages. Elle aurait pu se prendre un mur ou bien glisser dans le fossé. Elle a failli, c'était risqué, touché, heurté, mais pas coulé. Elle a foncé, pied au plancher. » Elle dit « Être libre, ça n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on fait. » Enfin, c'est un collègue qui lui a dit que Saint-Augustin l'avait dit. Elle n'est pas sûre que ce soit lui, si c'était Sartre, et si. Elle s'en fiche, elle le dit quand même après tout. Elle fait ce qu'elle veut. Ah non, pardon, elle veut ce qu'elle fait. Elle dit qui s'excuse, s'accuse. Elle dit qui se justifie, se trahit. Elle ne s'est pas excusée, mais elle a accusé. C'était à lui de se justifier. Il a trahi, il a payé.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Cette histoire commence en mars 2018 dans une boîte de nuit australienne quand une Française rencontre Louis qui est vraiment très chou avec ses yeux pétillants et son sourire jusqu'aux oreilles. Elle va chez lui, il rit, ils couchent ensemble mais au milieu de la nuit, elle se réveille. Le premier truc que je constate, je suis de nouveau en train de faire l'amour. Et un truc bizarre, je ne reconnais rien. J'ai l'impression de ne pas reconnaître les cheveux de Louis. Je ne comprends pas pourquoi il tourne la tête sur le côté alors qu'avant il me regardait. Je ne reconnais pas sa voix. Je pose mes mains sur ses épaules. Je hurle. Ces putains d'épaules sont poilues. Je suis sûr que celles de Louis n'avaient pas de poils. Et ceci est le viol, bien réel, subi par la jeune femme. Louis avait proposé à son petit frère de profiter d'elle dans son sommeil.
Cette histoire, c'est la vôtre, Jeanne Brooke. Bonsoir.
Bonsoir, Julia.
Si vous vous retrouvez en mai 2020, cité dans la revue de presse de Claude Ascolovitch, ici même sur France Inter, c'est que vos mots ont frappé fort et pile et juste. Vous avez écrit en tout, au départ, 67 pages d'un trait, juste après le viol que vous avez subi en Australie, en mars 2018. Donc, il y avait une nécessité à écrire, voire une urgence peut-être ?
Il y avait complètement une nécessité à écrire. En fait, j'ai écrit en plusieurs morceaux. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et du coup, au moment où j'ai été violée, je savais que le procès, il allait avoir lieu longtemps après. J'avais même pas encore de date. Et je me suis dit, il faut absolument que je commence à écrire l'agression pour que je la sorte de ma tête, mais que j'ai une trace écrite de ce qui s'est passé. Et que
pour vous souvenir.
Pour me souvenir, exactement. En plus de la déposition.
Est-ce que c'est aussi parce que écrire, c'est plus, à certains égards, plus facile que de dire? Ça permet de sortir des mots quand même sans avoir à craindre la réaction en face?
Aussi. Après, moi, au moment où ça m'est arrivé, j'étais entourée avec des copains en qui j'avais entière confiance. Donc parler, ça n'a jamais été trop un problème. Mais c'est vrai que écrire, chez moi, c'est un peu une seconde nature et je fais hyper naturellement. Donc j'ai commencé à écrire juste après le viol.
C'est l'autrice féministe et journaliste à Slate, Titu Lecoq, qui d'abord publie votre récit. Récit qui, à son tour, fait parler de lui. Alors, il vous fait écrire encore et encore et encore jusqu'à ce livre. 0,9% vous racontez tout de cette nuit du 30 mars 2018 jusqu'au procès, jusqu'au verdict. Récit d'une justice, d'une police assez exemplaire en matière de violences faites aux femmes et qui nous tend à nous ici. Un drôle de miroir, c'est tout l'objet de notre rencontre ce soir, Jeanne Brooke. Mais d'abord, c'est à vous que je vais tendre un miroir. Est-ce que vous pouvez l'attraper là sur votre gauche? Est-ce que vous pouvez prendre le temps de vous regarder et de vous décrire pour celles et ceux qui nous écoutent? Déjà, vous vous souriez, c'est pas mal. C'est un bon début.
Une bombe atomique?
Évidemment.
Évidemment. Non, ben, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, j'ai un pull beige. Et je suis pas hyper bronzée parce qu'on est en plein hiver et que il fait pas très beau.
Vous êtes à l'aise avec votre reflet ?
J'aime pas du tout qu'on me prenne en photo.
Ouais.
Mais de manière générale, quand je me regarde dans une glace, je me dérange pas trop.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, peut-être dans l'immédiat après, le sentiment ou la crainte de changer, que quelque chose change ou que ça se voit ou qu'il atteigne quelque chose de vous ?
Physiquement ?
Presque peut-être.
Bah, je me fais souvent la réflexion que je me dis que j'ai une ride qui est apparue suite à ce viol et suite aux 18 mois qui ont suivi, et que c'est un peu la ride du souci et du stress. Mais parfois je la vois, parfois je la vois pas. Donc je sais pas si c'est...
Là, je dirais qu'on la voit pas.
D'accord.
Donc c'est que ça va. Vous êtes une femme jeune, vous avez 34 ans, vous êtes par ailleurs commerciale export pour un équipementier nautique. Et ça, ça dit la mer, ça dit le grand air, ça dit l'Orient où vous vivez et où vous pouvez, je vous cite, hein, chausser vos baskets, courir le long de la mer, faire de la voile, boire des bières, faire la fête, manger des huîtres, être dehors. Oh oui, dehors, y rencontrer un mâle alpha, ouais, mais pas lambda. Et puis vous dire que pourquoi pas, résultat, vous êtes avec lui depuis 2 mois. Une prouesse, dites-vous. À ce point-là
Ouais, non, je l'avais écrit un peu sur le ton de la blague, mais c'est rigolo. Non, mais bravo. Effectivement, c'est vrai.
Alors, dans tout ça, hormis ce mâle alpha, ce serait quoi votre mauvais genre à vous?
Mon mauvais genre, bah, je dirais que je me suis fait violer, que j'ai mis un mec en prison. Ça fait un peu... Enfin, ça calme.
Ouais, en général, ça peut calmer, ouais. Vous dites, je me suis fait violer, vous?
Je dis ça, mais alors du coup, je me suis renseignée parce que je sais que vous aimez pas du tout...
C'est pas que j'aime pas... C'est que
vos oreilles saignent.
Ouais, mes oreilles saignent pour vous et pour nous toutes. Mmh. Parce que quand on dit je me suis fait violer, il y a cette idée qu'on y est quand même un peu pour quelque chose. Alors que vous n'avez rien.
En fait, au moment où mon témoignage il est sorti, c'est vrai qu'il y avait eu des réactions qui disaient exactement ça, qu'en fait on y était pour rien. Et ça, je suis totalement d'accord que quand on est violé, on y est pour rien. Bon, du coup, je dis quand on est violé. Et du coup, au moment de reprendre mon manuscrit et d'en faire un livre, je me suis dit, je vais appliquer ce que Julia Foyce dit.
Ah bon?
Je veux dire, enfin, Julia Foyce et quelques autres. Et je vais remplacer ouais. Se faire par être. Et puis, je trouvais que ça sonnait
ça
pas pareil.
Pas
et du coup, ouais. Je me suis renseignée. Et en fait, se faire, c'est pas forcément... c'est pas forcément, il y a pas forcément un lien de causalité. Je me suis fait faire un massage, c'est moi qui ai décidé de me faire faire un massage. Et quand on dit se faire renverser par une voiture, se faire piéger, se faire marcher dessus, bah on n'y est pas forcément pour quelque chose non plus. Et du coup, je m'étais vraiment renseignée. J'avais même écrit un paragraphe au début du livre en expliquant pourquoi je disais se faire et pas être. Et oui, et parce que aussi quand on utilise le participe passé, et ben c'est on décrit un résultat, alors que quand on utilise se faire, on décrit un peu l'action, et du coup je trouvais que ça avait un côté un peu plus violent, et quand je disais je me suis fait violer, je trouvais que c'était plus violent et plus ça reflétait mieux ce que je ressentais par rapport à mon viol.
Mais comme quoi, et pour le coup je pourrais ouvrir un deuxième tiroir sur mon viol, ouais. Parce que c'est pas le vôtre non plus,
non.
C'est pas vous qui avez commis un crime.
Ouais.
Unique en son genre.
Et comme j'aime bien commencer par le commencement, nous sommes le 17 octobre 87, clinique Sainte-Félicité à Paris. Il y a ce bébé, Jeanne, disons, premier bébé de Charles et Priscilla, vos parents. Donc, que voudriez-vous qu'on sache d'eux?
Alors déjà, ils s'aiment beaucoup, ils sont toujours ensemble et ils sont shootés d'amour. Mmh. Donc voilà, ma mère, elle était acheteuse de chemisiers dans le Sentier et ensuite, elle est devenue... conteuse dans les écoles maternelles, ouais. Et maintenant elle est guide conférencière. Elle a passé le diplôme il n'y a pas très longtemps. Et mon père, il travaille dans les assurances.
Et comme couple, vous en diriez quoi? Très amoureux, mais est-ce que, puisqu'on est ici dans des questionnements autour du genre, est-ce qu'on est dans des rôles genrés assez traditionnels ou pas du tout?
Plutôt traditionnel, ouais. C'est mon père qui bossait, ma mère, elle bossait jusqu'à ce qu'elle ait son troisième enfant. Et ensuite... elle s'est occupée de nous, mais ensuite, dès qu'elle a pu reprendre une activité... Enfin, d'ailleurs, déjà, c'était une activité à temps plein, hein, de s'occuper de 4 enfants. Et...
Ça va.
Pénard. Et voilà, et du coup, maintenant, elle est guide conférencière.
Alors, vous êtes l'aînée d'une fratrie de 4, donc 2 filles, 2 garçons. L'équilibre est parfait, l'ambiance, disons, bruyante, mais joyeuse. Vous grandissez dans l'Oise, à Chantilly, avec McDo, un labrador qui vous suit partout. Enfance tranquille, donc extra et ordinaire en même temps. Mais quel enfant est-ce que vous étiez, vous?
Moi, quand j'étais petite, j'étais assez, assez calme, assez timide. J'adorais être la première de classe.
C'est vrai.
Donc, c'est hyper... hyper chiant, quoi. Et j'étais l'aînée, donc j'étais habituée à m'occuper de mes frères et sœurs, de mes petits cousins. Enfin, on m'a mis des bébés dans les bras à partir du moment où j'avais 4 ans, je pense. Ouais. Et donc voilà. Et je faisais du poney. J'adorais faire du poney et du piano.
Sage comme une image, vous plongez la tête dans les livres et quand vous la relevez, à 7 ans, vous découvrez ceci.
Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde.
C'est pas ce qu'on m'a appris.
Il te faut peut-être une autre méthode. Répète après moi. Hakuna Matata.
Quoi ?
Hakuna Matata ! Ça veut dire pas de soucis !
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique !
Hakuna Matata. Qu'elles sont fantastiques !
Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci.
Comme tous les enfants du monde, ou presque, vous découvrez le Roi Lion. Est-ce que c'est de là, par exemple, que vous viennent vos envies de voyage ? Qu'est-ce qui vous fait ce dessin animé ? Est-ce que vous, si vous replongez dans la tête de cette petite fille que vous étiez qui regarde ça, vous dites quoi ?
Je me souviens que j'étais hyper contente parce qu'on n'allait pas souvent au cinéma et que là j'étais allée au cinéma et que du coup voir le Roi Lion sur un énorme écran c'était génial. Et après parce que
vous avez la bougeotte quand même, on va le raconter un peu, mais je me disais tiens, pas étonnant que pour une jeune femme qui a autant la bougeotte que vous, vous nous citiez le Roi Lion comme référence de dessin animé qui a accompagné votre enfance, parce que ça nous emmène très très loin, quoi.
Ouais, peut-être. J'avais pas fait le lien, mais c'est possible.
C'est sympa.
Ouais.
Alors, ado, plus de lions, mais des poneys sur les murs de votre chambre. Vous êtes fan d'équitation, un peu sauvage, un peu rebelle. Vous laissez pousser des dreads et vous noyez dans des pantalons trop larges. Oui, parce qu'à ce moment-là, le corps se transforme, le désir pointe le bout de son nez, tout ça chamboule, tout ça bouleverse. Mais vous, quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec le désir qui arrive, avec le masculin, le féminin, les garçons à cette époque-là, ado? Vous positionnez comment dans tout ça ?
Je me positionne pas trop, je pense. Je suis pas hyper contente de devenir adulte. Je préférais largement être enfant. Je trouve que c'est trop d'emmerde. Du coup, je suis plutôt à freiner des cas de fer et à être en total déni de devenir une adulte et à pas trop assumer de devenir une femme, en tout cas.
C'est une question qu'on pose souvent ici, puisque c'est au moment où le corps devient sexué. L'adolescence, c'est ça aussi beaucoup. Donc c'est une question qu'on pose souvent. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre corps à ce moment-là ? C'est une entrave pour vous ? Ou c'est un truc étrange qui est en train de bouger ? Ou est-ce que vous êtes assez amis avec lui finalement ?
On cohabite, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis devenue assez sportive et j'adore courir, me dépenser, faire un peu attention à ce que je mange, voilà. Alors que quand j'étais ado, je faisais vraiment pas beaucoup de sport du tout. Ouais, j'étais un peu déconnectée de mon corps, je pense.
L'école, vous en êtes déconnecté aussi, ça vous ennuie assez franchement, le collège, le lycée, les études à Lille, ça vous éclate. En revanche, c'est là que vous découvrez la vie étudiante, la fête jusqu'au petit matin, que vous poursuivez jusqu'à Paris où vous entamez votre vie professionnelle. Et puis, il se passe ce qui arrive quand on grandit, c'est que vos amis, eux, se casent, vous, pas du tout. Enfin, vous essayez une fois, mais c'est pas génial, ça a foiré, alors vous repartez encore une fois, sauf que cette fois ce sera loin, ce sera Sydney, parce que la mer, parce que la plage, pas forcément à Bordeaux, il y a Bardot pour accompagner.
Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau, dans un coquillage la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors qu'il le fallait, avec des mots nouveaux, la mer que je t'offrais pour tes voyages.
Qu'est-ce que Bardot vient faire avec vous en Australie, Jeanne Brook?
C'était une chanson que j'écoutais tout le temps, qui était sur ma playlist, et comme je passais pas mal de temps à la plage, à Bondi Beach, une banlieue de Sydney, du coup je trouvais que ça collait bien à la
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Je suis partie à Sydney en octobre 2014 en me disant ça fait 2 ans et demi que je suis à Paris, j'ai fait le tour de mon boulot, j'ai envie d'aller habiter à la mer, j'ai envie de faire plus de voile, de faire du kite, de changer d'air grosso modo. Et du coup je suis partie avec un working holiday visa et je suis arrivée sur place et j'ai trouvé
un visa de travail.
Et donc c'est un visa qui permet de voyager et de travailler.
D'accord.
Mais qui dure 1 an. Donc après on a 1 an pour trouver un vrai boulot entre guillemets qui te sponsorise un vrai visa. Et du coup je suis restée, j'ai trouvé un boulot, un visa, des copains et finalement je suis restée 5 ans.
Alors voilà, on est en mars, le 30 mars 2018, c'est un jour férié là-bas, et il fait beau, trop beau pour rentrer, alors vous rejoignez vos amis dans un bar et vous dansez. Là, il y a Louise, ses yeux qui pétillent, son sourire, sa gentillesse, vous flirtez, vous fumez des clopes, vous vous embrassez. Allez, viens, on est bien, tous les deux, viens avec moi, viens chez moi, vous le suivez, ben ouais, vous êtes bien, vous faites l'amour, et ça aussi c'est bien. Vous vous endormez, blotti contre lui, vous vous réveillez, et là ça commence à être beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
À ce moment-là, je me réveille et je me rends compte que y a quelqu'un sur moi en train de me faire amour alors que j'étais en train de dormir. Et que surtout, c'est pas du tout le même qu'avant. Que je reconnais pas ses cheveux, je reconnais pas sa voix, je reconnais rien. Et donc, ça me prend 10 secondes, mais ça paraît une éternité, ou même moins, mais ça paraît quand même une éternité, où je réalise que c'est pas du tout la même personne et que je le dégage.
Vous le dégagez, vous sortez de la chambre et vous vous trouvez nez à nez avec Louis, c'est ça?
Et je sors de la chambre et je vois 2 mecs en caleçon. Et donc là, ça confirme encore plus ce que j'avais compris, qui est que c'était pas le même et qu'ils ont échangé.
Vous voulez partir, vous ramassez vos affaires, vous hurlez. Louis tente de vous retenir, mais vous foncez et directement au commissariat, sans aucune hésitation.
Louis, il m'a suivi dans la rue en me disant « Je comprends pas pourquoi tu t'en vas, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Et moi, je lui disais « Mais t'es qu'un connard, je sais très bien que c'était pas toi avant, etc. » Et en fait, il me suivait tellement, il était tellement insistant qu'à un moment, je me suis dit « Non, mais est-ce que c'est moi qui ai rêvé ? C'est moi qui craque totalement ?» Et du coup, je lui ai dit « Ok, approche-toi. » Et là, je lui ai touché ses épaules parce que j'avais repéré que les épaules du deuxième, elles étaient poilues. Et je me suis dit « Je vais vérifier si lui, il a les épaules poilues ou pas. » Et en fait, elles étaient toutes douces, ces épaules. Et donc là, je me suis dit « Non, mais c'est sûr, en fait. Enfin, fais-toi confiance. Évidemment qu'ils ont échangé. Évidemment que c'était pas lui et que c'était pas du tout le deal qui était prévu. » Et du coup, à ce moment-là, ouais, je suis allée direct au commissariat.
France Inter, unique en son genre.
Ici, en France, 12% des victimes de viols portent plainte. 76% de ces plaintes sont classées sans suite. 1% seulement des viols débouchent sur une condamnation aux assises. Aujourd'hui en France, 66% de celles qui se sont déplacées dans un commissariat suite à des violences sexistes, sexuelles ou conjugales ont été mal reçues. C'est une enquête du collectif Nous Toutes portant sur 3500 témoignages de femmes. Paroles minimisées, banalisées, ridiculisées, retournées contre celle qui veut porter plainte, plainte qu'on ne prend pas alors qu'on n'en a pas le droit. Oui, ça arrive dans plus de la moitié des cas. C'est dans ce contexte-là qu'un petit matin d'octobre 2017, 6 mois avant vous, Jeanne Brooke, et à Paris cette fois, Mathilde Forget pousse la porte elle aussi d'un commissariat. Quelques heures plus tôt, elle a rencontré un homme dans la rue. Il était sympa, comme Louis. Ils ont flirté, eux aussi. Alors quand il a proposé de la raccompagner chez elle, elle a dit oui. Et puis non. Elle a dit non quand il a voulu coucher avec elle. Alors il a insisté, alors il a menacé, insulté, frappé. Quand les policiers voient Mathilde, quelques heures plus tard, elle a des bleus partout. Des traces de strangulation, le médecin prescrira 10 jours d'ITT. Tout ça, elle le raconte dans un récit, roman, de mon plein gré, pour lequel on l'avait reçu ici même le 18 juin dernier. Et elle nous a raconté comment, pour elle, avec les policiers, ça s'est passé.
Moi, quand j'y vais, j'ai l'impression d'être une victime et qu'il y a quelqu'un de dangereux et qu'il faut que je le dise. Je crois que c'est juste, ça dans ma tête. Et en fait, petit à petit, là, il y a un espèce de basculement un peu terrible, et notamment avec cette phrase que j'ai vraiment entendue, où je raconte le viol horrible, et à un moment donné, le commissaire s'arrête et me dit « Ah, mais en fait, s'il avait sa main dans votre bouche, il vous tenait pas. » Et là, je me dis « Oh, putain, ça va être compliqué. » Et donc, j'ai été vraiment... Ah oui, d'accord, donc en fait, la moindre chose qui va permettre de prouver qu'il n'y a pas eu viol... On va s'en servir. Parce qu'en fait, la question, c'est pas de prouver qu'il y a eu viol, c'est de prouver qu'il n'y a pas eu viol, parce qu'on veut pas s'occuper de ça. ensuite un nombre de questions incalculables et de pourquoi j'ai ramené un garçon chez moi si je suis lesbienne. Ça, c'était vraiment une question qui revenait tout le temps et j'étais vraiment là. Franchement, on va débattre sur cette question-là. Ça, on s'en fout, en fait. On s'en fout vraiment. Et c'est vraiment cette idée de que je me demandais, vraiment un matin, je me disais, mais est-ce que lui, vous allez autant l'interroger de cette manière-là pour qu'il puisse prouver que j'étais consentante?
Vous vous dites quoi, Jeanne Brooke, quand vous entendez l'histoire de Mathilde Forget?
Je me dis que j'ai eu la chance que ça m'arrive en Australie et de tomber sur des policiers qui, enfin, soit qui étaient formés, soit qui avaient tout simplement du bon sens et qui posaient les questions qu'il fallait et pas des questions complètement hors sujet comme ce que Mathilde décrit.
Vous racontez votre histoire des dizaines de fois en tout à des policiers, aux médecins, à l'hôpital, à une assistante sociale, à un inspecteur de police. Quel est l'accueil que vous recevez? Qu'est-ce qu'on vous dit?
L'accueil, c'est que on me fait entrer dans une petite salle et on commence à m'interroger. Et au début, le gendarme qui m'interroge déjà s'excuse parce qu'il n'y a pas de gendarme femme qui est disponible à ce moment-là. Et donc, je commence à lui raconter. Ensuite, il y a une autre flic femme qui arrive et du coup, je continue. Et au fur et à mesure que je parle, j'étais hyper choquée, je pleurais, etc. Et ils étaient vraiment hyper sympas à me ramener de l'eau, des mouchoirs, à me dire que ça allait aller. Enfin, voilà. Après, ils font aussi leur boulot qui est d'essayer de démêler la vérité, parce qu'effectivement, on ne sait pas si ce que je raconte ça va être vrai ou pas, mais en tout cas, sur le moment, ils s'occupent bien de vous et de faire en sorte que la parole sorte.
Vous partez à l'hôpital faire des prélèvements, vous retournez au commissariat, là vous rencontrez Ben, le détective qui mènera l'enquête, il vous ramène chez vous pour que vous dormiez. Après une douche et trois Nurofen, vous vous couchez. Au réveil, Ben vous appelle, votre agresseur est arrêté, inculpé, tout va très très vite. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous dites ça y est, je suis prise en main.
Ouais.
Je suis pas toute seule.
Ouais, c'est hyper soulageant et on se dit effectivement je suis pas toute seule. Ils m'ont cru, ils sont allés le voir, ils l'ont arrêté et on va comprendre ce qui s'est passé. Il va se passer quelque chose quoi. On va pas laisser ça tomber aux oubliettes.
Pendant toute l'enquête, la police et le personnel médical vous appellent régulièrement. Ils prennent de vos nouvelles, ils vous mettent en contact avec une assistante sociale, une psy que vous allez pouvoir voir gratuitement. Tout le monde autour, dans chaque corps de métier, se préoccupe de vous. Comment est-ce que vous allez à ce moment-là, au début de la procédure?
Au début, je vais hyper bien. Je suis avec le recul maintenant, je sais que je suis en total déni, mais j'ai l'impression d'être une warrior, que ça m'a rien fait du tout, que c'est comme si j'avais vu un film d'une fille qui a été violée et que voilà, mais quand je réalise pas du tout que c'est moi en fait et du coup je me dis juste j'ai été violée, je suis allée chez les flics, maintenant je les laisse faire leur boulot et moi je continue ma vie exactement comme avant.
À la fin du mois de mai, le parquet prend le relais et la procédure judiciaire est lancée. Le système australien est très très différent du système français. Vous n'êtes pas considéré comme une victime mais comme le témoin principal d'un crime commis contre la société. Qu'est-ce que ça change très concrètement?
Très concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est que...
Et déjà, vous n'avez pas d'avocat, vous?
Ouais, déjà, j'ai pas besoin de prendre un avocat.
Donc ça veut dire pas de frais de justice?
Mon avocat, c'est les policiers. Donc il n'y a aucun frais de justice et j'ai pas eu à débourser un seul centime pour toute cette procédure. Et au contraire, il y a un fonds qui sert à, entre guillemets, dédommager les victimes. C'est pas vraiment un dédommagement, c'est une reconnaissance, en fait, que ce qui s'est passé, c'était pas normal et que la société reconnaît qu'il y a eu un foirage et que, du coup, à ce titre-là, on verse 5 000 $ australiens.
Alors, ce que ça implique aussi, c'est que vous n'avez pas accès aux éléments du dossier.
Ouais.
On vous tient pas au courant de la progression de l'enquête. Ça, vous le vivez comment?
Ça, c'est difficile à vivre parce que j'ai un peu envie de tout contrôler. Et donc là, on me dit pas comment l'enquête avance.
Surtout que vous dites, moi, sans preuve tangible, voilà, J'y vais pas.
Ouais, en plus, ouais, il y a ça. C'est que j'ai envie de contrôler et en plus, je me dis, je connais très bien les statistiques des procès pour viol et je sais très bien qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Donc, soit on me donne les indices qu'on a en main et je me fais une idée de si c'est jouable ou pas et on y va ou pas, mais si on me dit rien, c'est hyper compliqué et je me dis, non mais on va aller au casse-pipe, en fait. Comment est-ce que je peux savoir si les flics, ils font bien leur boulot et que... Et voilà, et surtout, je me dis, mon agresseur, il a rien à perdre. Parce que lui, de toute manière, il risque d'aller en prison, donc il va mettre le paquet. Enfin, il a tout à perdre, plutôt. Et donc, il va payer des avocats une fortune. Et est-ce que moi, les policiers, ils vont être à la hauteur de la défense carabinée qu'il est en train de préparer?
Alors, il y a un premier soulagement, c'est le jour où vous apprenez, malgré tout, sa fuite, et vous apprenez que l'ADN a parlé et que dans les prélèvements qu'on vous a faits, il y a bien l'ADN de votre agresseur. En août, soit 6 mois après, vous apprenez aussi la date du procès, ce sera pour juin 2019. C'est avec ces éléments-là que vous rentrez en France pour retrouver votre famille. Jusque-là, vous ne leur avez rien dit?
Non, j'avais pas du tout prévenu. J'avais prévu personne en France. En France, j'avais prévenu personne.
Pourquoi ?
Parce que je voulais pas que les gens s'affolent. Et puis, enfin, il y a une partie de moi qui était en total déni et je me disais, ça sert à rien d'en parler puisque de toute manière, je suis en pleine forme. Et puis, j'avais pas envie non plus d'en parler et que tout le monde se mette à paniquer et voilà. Puis j'avais honte, je pense aussi un peu. J'avais pas envie d'appeler mes parents pour leur dire que j'étais rentrée avec un mec et que ensuite ils avaient échangé. Enfin, non, j'ai.
Et puis il y a quand même des choses sans doute qui se nichent dans un coin de la tête, on le sait. Alors vous n'aviez pas les chiffres à l'époque, forcément ils viennent de sortir, mais c'est une enquête demandée par Mémoire Traumatique que l'association a, l'Ipsos. Le résultat, c'est qu'un tiers des Français pensent que la responsabilité du violeur est atténuée si les femmes ont une attitude provocante en public, si elles sont allées seules chez un inconnu, si elles ont flirté. Un quart des Français le pensent si la victime a pris de l'alcool ou de la drogue, ou si auparavant elle a déjà eu des relations sexuelles avec celui qui les a violées. Et 20% le pensent, donc, que la responsabilité du violeur est atténuée si elle se promène dans des tenues sexy. Évidemment, on a toutes grandi dans ce contexte-là.
Ouais.
Quelque part, vous deviez peut-être vous le dire et craindre le ressenti des gens en face. Est-ce que vous avez eu des réactions quand vous en avez parlé, par exemple, à vos amis? Ça s'est passé comment?
Ça s'est... Enfin, ils ont eu une attitude très... très ouverte, entre guillemets. Enfin, jamais je me suis sentie jugée, en tout cas, par mes potes ou par... Enfin, une fois que j'ai dit à mes parents, pas par mes parents non plus, enfin, personne...
C'est à votre mère que vous en avez parlé en premier, c'est
ouais.
ça
Ouais, mais avant d'en parler à ma mère, j'en ai parlé à ma sœur et à ma tante, qui ont fait un peu le rôle de cobaye, quoi.
C'est ça.
Je me suis entraînée.
Vous vouliez tester les réactions.
Et ensuite, j'en ai parlé... à ma mère qui était complètement désolée pour moi, mais à aucun moment je me suis fait engueuler, quoi.
Ok, donc vous avez eu plutôt un entourage bienveillant, ce qui est plutôt assez rare, et un entourage qui vous a cru à 100%.
Ouais.
Ok. Qu'est-ce qui fait que quelques mois après, petit à petit, vous vous renfermez sur vous-même et vous devenez, je vous cite, un peu sauvage? Pour vous, le monde va se diviser en deux entre ceux à qui vous pouvez dire, ceux à qui vous pouvez pas dire, ceux qui sont avec vous et ceux qui sont contre vous.
Ce qui se passe, c'est que je sors du déni dans lequel je m'étais murée depuis le mois de mars. Et ce qui fait que je sors de ce déni, c'est que du coup, je rentre comme tous les ans en vacances en France. Je vois ma famille et quand je vois ma famille, je me rends compte que je peux pas, en fait, garder cette histoire pour moi, qu'il faut absolument que ça sorte et qu'il y a vraiment une espèce de muraille invisible entre ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, qui ne savent pas, et moi qui sais, et que c'est pas possible de continuer comme ça. Et à partir du moment où je le dis, là, c'est l'explosion totale, je maîtrise plus rien.
Vous vous rendez compte que le viol aura un impact sur votre vie, que cet impact sera pas définitif, mais que...
Ouais.
Ça a fait quelque chose, quoi.
C'est ça, exactement.
Et que ce quelque chose, il est énorme.
Ouais.
C'est un peu ça.
Ouais.
Petit à petit, vous cessez toute vie sociale, vous avez peur de pleurer devant les gens, vous vous concentrez sur le procès, c'est dans 6 mois, il faut vous préparer. Au même moment, en France, il y a une affaire qui fait la une des journaux, le viol du 36 arrive aux assises. Cette affaire remonte à 2014. Emily Stanton est canadienne, elle est venue passer ses vacances à Paris. Le jour, elle visite, la nuit, elle fait la fête. Et c'est dans un bar de l'île de la Cité qu'elle rencontre ses deux policiers. On se cherche, on se chicane, on boit pas mal, alors on sort dehors, besoin de prendre l'air. Les policiers proposent à la jeune femme de visiter le 36 qui est des Orphèvres, siège mythique de la PJ. Ça ne se refuse pas. La suite, elle a refusé. Eux aussi, ils ont forcé, complètement sonné, à 2h du matin, le 23 avril. Emily Stanton porte plainte pour viol collectif. Il lui faudra attendre 5 longues années pour que son affaire soit jugée. Carl Gessler et Nat Perez, journal de 13h sur France 3.
L'actualité judiciaire en France est l'ouverture du procès de deux policiers du 36 quai des Orfèvres. Ils sont accusés de viol sur une touriste canadienne en 2014 dans les locaux de la police judiciaire. Ils avaient d'abord bénéficié d'un non-lieu avant d'être renvoyés finalement aux assises. Nathalie Perez, bonsoir. Vous suivez cette affaire depuis le début et bonsoir. C'est une lourde pression sur les épaules de cette femme de 39 ans.
Oui, effectivement, Carole, pour l'avoir rencontrée il y a quelques mois, j'ai vu arriver aujourd'hui à l'audience une jeune femme totalement métamorphosée, les cheveux coupés très courts, tout habillée de noir, le visage extrêmement tendu. J'ai également pu parler avec elle hier dans la journée. Elle m'a confié être terrorisée à l'idée d'affronter ces 3 semaines de procès. Elle est venue accompagnée avec sa mère. Elles vont changer d'hôtel chaque semaine pour fuir la presse. Elle sait parfaitement ce qui lui attend. Elle sait que tout au long de ce procès, sa version sera sévèrement contestée.
Le fait est que dans cette affaire, très clairement, c'est la victime qu'on a auscultée, interrogée, sondée, elle faisait trop la fête, elle était trop fragile, elle avait bu, elle était en jupe, elle était incohérente. Elle vous habite pendant l'écriture de votre livre, Jeanne Brooke. Pourquoi ?
Parce que je suis traumatisée par cette histoire et je me dis, mais je veux pas du tout que mon procès ressemble à ça.
Votre procès qui n'est toujours pas le vôtre, pas plus que ce n'est
oui,
votre viol.
Oui, tout à fait, que le procès ressemble à ça et... Ouais, je suis vraiment tous les jours tous les articles sur ce procès parce que je sais que le mien va arriver le procès de mon agresseur va arriver ensuite.
Sauf que vous êtes en Australie et que ça se passe très différemment pour une simple et bonne raison, c'est que en Australie, on veut des faits. Et donc qu'est-ce qu'on n'interroge pas ?
Voilà, exactement. Et du coup, quand je vais voir de temps en temps le détective qui est en charge de mon dossier, parce que je vais le voir de temps en temps pour lui demander où est-ce qu'on en est et pour garder un peu le contact avec lui, il me dit on ne te posera jamais ce genre de questions qui n'ont rien à voir avec l'agression en elle-même. Les seules questions qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a eu un rapport sexuel, oui ou non ? Et deuxièmement, est-ce que c'était consenti, oui ou non ? Mais le fait que tu sois rentré le premier soir avec un type, le fait que, enfin, on s'en fout totalement, ils s'en foutent de...
Que vous ayez bu ou pas, on s'en fout. De toute façon, c'est une circonstance aggravante, hein, par ailleurs, ça dédouane personne.
Ouais,
mais à un moment donné, ça m'a frappé aussi pendant le procès, mais on va y revenir. Vous dites j'étais en état de choc et on vous dit attention, des faits, pas de sentiments, pas d'émotions, etc. Ça va jusque-là.
Ouais, c'est ça. C'est que j'étais en train d'expliquer que j'étais sur la route pour aller au commissariat et que du coup je commençais à pleurer et là l'avocate du violeur qui s'est levé et qui a dit attention elle parle trop de
ses émotions, mais on n'est pas assez dans les faits. Quoi.
Ouais.
Alors, pour info, quand même, Emily Stanton n'est pas au bout de ses peines, hein, condamnée à 7 ans de prison en première instance. Les deux policiers ont fait appel repoussé une première fois en mars 2020 à cause du confinement, une deuxième fois en juin dernier à cause de l'état de santé d'un des avocats de la défense, repoussé à une date indéterminée. Résultat, 8 ans plus tard, elle ne peut toujours pas clore ce chapitre. Revenons-en à vous, Jeanne Brooke, 15 mois pour le coup après les faits. Vous voilà à la veille du procès. Comment est-ce que vous vous sentez ?
Je me sens fébrile, hyper stressée, mais contente que ça arrive. Mais vraiment très stressée, et puis vraiment, je n'ai aucune idée de si ça va marcher, entre guillemets, ou pas.
Comment ça se passe, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire ? Racontez-nous.
Au début, c'est donc le Crown Prosecutor, donc c'est l'avocat général qui est mon avocat, qui me demande de dérouler les faits et qui m'aide à raconter. Et puis ensuite, c'est au tour de l'avocat de mon agresseur de faire un contre-interrogatoire. Et là, son but, c'est vraiment d'essayer de me mettre en porte-à-faux, d'essayer de débusquer des incohérences, de montrer, entre guillemets, au jury que peut-être je mens.
Parce que leur version, c'était, vous étiez au courant que c'était le frère, en plus, de Louis. Parce que, alors ça c'est, le truc m'a fait bondir en le lisant, Louis n'ayant pas pu vous donner d'orgasme, vous en redemandiez, et donc il a été chercher son frère, vous l'a proposé, vous avez dit oui quoi.
Ouais c'est ça, c'était ça leur version. Mais du coup ça, ils me l'ont pas dit au moment où moi j'étais en train de déballer ma version, parce que c'était ensuite.
Ouais.
Mais oui, c'est leur version, c'est de dire, elle était tout à fait au courant, on lui a proposé que le petit frère vienne, et elle a dit oui.
Comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour garder votre calme ? Parce que c'est très important que vous le gardiez.
Ouais, je pense que j'étais tellement terrorisée et stressée que il y avait pas d'espace dans mon cerveau pour m'énerver, ce qui est inhabituel. J'étais hyper focus. Après, quand ils me posaient des questions que je trouvais nulles, et je haussais un peu les sourcils en me disant non mais enfin vraiment quel débile, ouais. Et surtout quel métier nul, quoi. Mais j'ai pas perdu mon calme.
Et vient ensuite le temps des plaidoiries que le juge résume avec éléments à charge et à décharge, et puis il s'adresse au jury. Ne jugez pas juste la plaignante et la personne accusée. Réfléchissez à cette affaire d'un point de vue de la société dans son ensemble. Au-delà de la personnalité de l'accusé et de la plaignante, lorsqu'un cas comme celui-ci arrive, comment la société devrait-elle réagir? Rideau. Pendant 24 heures, le verdict ne tombera que le lendemain. Le jour du verdict, vous êtes installé dans un café près du tribunal avec une amie. Votre téléphone sonne, ça y est, vous pouvez y aller. Vous foncez, vous engouffrez dans l'ascenseur. Votre cœur bat à 5000 à l'heure. Vous regardez une jurée, elle vous sourit. Vous pensez, eh ben c'est bon, vous avez raison. Guilty, coupable. Le mot est prononcé, il vous fait quoi? Là, il vous fait sourire, par exemple.
Ouais, c'est un soulagement de dingue, et c'est vraiment la fin d'une période nulle, quoi. Enfin, d'une période où j'étais vraiment en attente, et en fait où je me rends compte que pendant toute la période où j'ai attendu le procès, en fait c'est comme si j'étais par terre et que je pouvais plus rien faire. Enfin, c'est une période où j'ai pas du tout avancé, ni professionnellement ni sentimentalement, ni j'étais juste en mode pause, ouais. En train d'attendre ce procès et d'avoir un espèce de dénouement et de savoir s'il allait être condamné ou s'il allait être acquitté.
Alors lui prend la tête dans ses mains, vous le regardez et vous vous sentez presque coupable, il vous fait de la peine.
Ouais, il me fait de la peine.
Ouais.
Je suis hyper soulagée que la justice ait fait son travail, mais je le vois et je me dis le pauvre, il part en tôle. Enfin non, je me dis pas le pauvre, mais il y a ses parents qui sont là, sa mère qui se met à pleurer, et c'est juste humain. Je me dis waouh, enfin quand même là. Il part en prison. Après, c'est normal. Il a déconné. Il m'a violé. C'est carrément normal qu'il parte en prison. Mais c'est perturbant d'envoyer quelqu'un en prison quand même. Et ça, on m'avait prévenu. On m'avait dit, est-ce que t'es prête à mettre quelqu'un en prison? Et moi, je disais très naïvement, non, mais de toute manière, c'est pas moi qui le met en prison. C'est lui qui se met en prison tout seul parce qu'il a fait n'importe quoi et maintenant, il paye pour ses actes. Et en fait, au moment où on dit guilty et que tu sais que le mec, le soir, il va dormir en prison et que c'est toi qui es à l'origine de la plainte, etc., tu dis quand même, waouh. Enfin, après le procès, je pense que j'étais aussi choquée qu'après l'agression. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Et après, au fur et à mesure, ça s'est estompé et je me suis fait à l'idée. Mais c'est pas évident de...
Alors, au moment du verdict, il y a Ben, le détective, et Jack, le procureur, qui vous prennent dans leurs bras,
ouais.
Qui vous félicitent. Les barrières professionnelles tombent. Et par la suite, ils vont continuer à prendre des nouvelles de vous.
Ouais. Donc, effectivement, ils me prennent dans leur bras. Je pense qu'ils sont hyper, très émus aussi parce qu'ils m'ont suivi depuis le début. C'est eux qui m'ont récupéré au moment de l'agression, etc. Et ensuite, ils continuent à m'envoyer des nouvelles sur la condamnation, la suite.
Quoi. Alors, il a pris 3 ans. Il a fait 18 mois de prison. Et puis, il est reparti au Mexique.
Ouais.
Il est libre. Ça y est. Vous aussi. Vous êtes reparti, vous avez quitté Sydney,
ouais.
Vous avez rejoint la Bretagne. Vous aussi, vous êtes en quelque sorte libéré, sauf que vous n'aviez rien fait. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ça ?
Par rapport à tout ça, je me sens vraiment bien. Enfin, pour moi, maintenant, c'est une histoire entre guillemets ancienne. On est en 2022, c'était en 2018, donc ça fait 4 ans.
C'est pas si ancien que ça.
Ouais, c'est pas si ancien que ça, mais il y a déjà eu le procès. Qui est passé, donc ça c'est un premier chapitre qui tourne. Je suis rentrée d'Australie, j'ai refait ma vie en Bretagne. Il y a le livre qui est sorti, et puis il y a j'ai reçu un mail qui me prévenait que le violeur il sortait de prison, et ça aussi mine de rien je me dis bon bah voilà, maintenant c'est fini, il m'a violé mais il a purgé sa peine, il repart chez lui, il recommence sa vie, et moi c'est entre guillemets balle neuve aussi, c'est terminé, c'est un chapitre dont
dont on ne parle plus.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Bien. Et maintenant, on fait péter hein, les cadres, les normes, les codes, le genre. On se dit qu'il est à nous, rien qu'à nous, et qu'on en fait exactement ce qu'on veut. Le féminin, le masculin, en toute liberté, en toute subjectivité. C'est ici que ça se passe chaque semaine. Nos invités viennent déposer un objet dans le labo du genre, un objet qui a fait d'eux les hommes et les femmes qu'ils sont aujourd'hui. Jeanne Brooke, quel serait le vôtre ?
Moi, j'ai ramené un Monopoly Deal, c'est mon jeu préféré.
C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le Monopoly Deal ? C'est quoi la différence
entre... beaucoup plus marrant que le vrai Monopoly. Le vrai Monopoly, okay. ça a peu d'intérêt.
C'est nul. Okay.
C'est un jeu, il y a de la stratégie, c'est rigolo, on peut se piquer les propriétés, etc. Et surtout, je l'ai tout le temps dans mon sac parce que ça prend pas beaucoup de place et je joue tout le temps avec.
Est-ce que vous pouvez faire le entendre les cartes au micro ? Voilà, là on les a bien. Voilà. Et en quoi est-ce que ça raconte votre façon d'être femme ?
Ouais, alors du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais ramener comme objet qui reflète ma féminité ? Et je me suis vraiment creusé la tête et j'arrive pas à définir. Enfin, évidemment que je suis une femme et que j'ai une certaine manière d'être féminine, mais j'arrivais pas à trouver un trait vraiment spécial. Et je me suis dit, par contre, ce qui me définit, c'est que j'adore jouer aux jeux de société et je prends un peu la vie comme un jeu. Enfin, en tout cas, j'essaie de manière générale. Et du coup, je me suis dit que le Monopoly Deal, ça
vous racontait bien.
C'est un compagnon quand même depuis quelques années et que ça me reflétait pas trop mal.
Vous jouez pour jouer ou vous jouez pour gagner ?
Je joue pour jouer. Enfin après, je préfère gagner évidemment, mais je joue parce que c'est une manière chouette d'interagir avec les gens et que c'est un moment où on n'est pas sur nos téléphones et que j'adore ça.
Et que c'est quand même plus rigolo comme ça.
Voilà, c'est ça.
Mais je suis pas loin d'être d'accord avec vous, Jeanne Brooke. Merci infiniment. Pour que la honte change de camp, notre série continue à suivre Eva Thomas, la toute première à avoir parlé d'inceste à la télé.